Le premier texte que nous lirons se trouve dans l'Épître aux Éphésiens, uniquement des lectures du Nouveau Testament. Ensuite les Actes et ensuite Luc. On va dans le sens chronologique inverse. Et nous allons confier cette lecture au Seigneur. Seigneur, nous avons besoin d'une parole qui nous fasse vivre. Mais des paroles, nous en avons entendu tellement cette semaine. Peut-être même déjà aujourd'hui, nous avons écouté la radio, nous avons parlé à une ou deux personnes. Des paroles, tellement de paroles. En plus, nous sommes nés à un siècle où il y a une surabondance de cette parole, surabondance d'images, d'informations, de sollicitations. Alors nous voudrions te remettre ce temps particulier où nous allons lire un texte, en lire un autre, puis encore un autre. Ce temps où finalement nous pourrions entendre pour la énième fois un même passage biblique. Et tout ça pourrait être une douce habitude, une douce lassitude. Seigneur, nous voudrions que ton Saint-Esprit donne une acuité particulière à cette parole et qu'elle soit, comme l'a dit l'apôtre Paul, comme une épée, bien aiguisée, bien tranchante. Qu'il puisse y avoir dans ces passages un texte qui nous parle personnellement, qui nous dise quelque chose de toi, quelque chose qui vienne directement toucher certains points de notre existence qui ne sont pas encore pleinement vécus devant toi. Aussi, Seigneur, nous te demandons que ta parole soit aiguisée et qu'elle puisse venir trancher entre ce qui est bon et ce qui est moins bon, qu'elle puisse nous aider à avancer. Oui, que ta parole surtout nous permette, par cet aspect décapant, découpant, de faire des choix et de vivre une vie plus pleine, une vie plus remplie de ta présence et pas simplement remplie de toutes les profusions que le monde nous propose. Te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons lire donc deux versets dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5. Ça commence bien. Ne buvez pas trop de vin. Vous savez que le jour de Pentecôte, les gens qui étaient là à Jérusalem avaient pour conviction que tous ceux qui étaient en train de s'exciter quelque peu sous la puissance du Saint-Esprit étaient remplis de vin. Voilà. Alors voilà ce que dit Paul. « Ne buvez pas trop de vin, la boisson pousse les gens à se détruire. Mais soyez remplis de l'Esprit-Saint. » Ensemble, dites des psaumes, des hymnes, des cantiques qui viennent de cet esprit. Chantez la louange du Seigneur de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père, toujours et pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, un petit peu avant, puisque je vous ai dit qu'on prenait l'ordre chronologique inverse, au livre des Actes des Apôtres, au chapitre 19, voici ce qui est arrivé à Paul quand il est allé du côté de Éphèse. Pendant qu'Apollos est à Corinthe, Paul traverse la région des montagnes et il arrive à Éphèse. Là, il trouve quelques disciples et leur demande « Quand vous êtes devenus croyants, est-ce que vous avez reçu l'Esprit-Saint ?» Ils répondent « Mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Esprit-Saint. » Paul leur demande « Mais quel baptême avez-vous reçu ?» Ils répondent « Le baptême de Jean. » Paul leur dit « Jean a baptisé ceux qui voulaient changer leur vie et il disait au peuple « Croyez en celui qui va venir après moi », c'est-à-dire en Jésus. Quand les croyants d'Éphèse entendent cela, ils se font baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et Paul pose les mains sur leur tête et ils reçoivent l'Esprit Saint. Alors ils se mettent à s'exprimer en langues inconnues, à parler au nom de Dieu. Et ces hommes sont une douzaine. Et puis dans l'Évangile selon Luc, qui était aussi l'auteur des Actes des Apôtres, donc un petit peu plus tôt dans l'œuvre de Luc, au chapitre 11, les versets 9 à 13. C'est Jésus qui parle et il vient de faire tout un propos sur donner, recevoir, etc. C'est pourquoi, moi, je vous le dis, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte et on vous ouvrira. Oui, celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et celui qui frappe à la porte, on lui ouvre. Chez vous, quand un enfant demande un poisson à son père, le père ne lui donne pas un serpent à la place du poisson pour le manger. Et quand un enfant demande un œuf, son père ne lui donne pas un scorpion pour le manger. Vous, vous êtes mauvais. Et pourtant, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Alors, ceci est encore plus sûr, le Père qui est au ciel donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Amen. Il y a quelques semaines, pour le jour de la Pentecôte, ceux qui étaient là, vous aviez vu une petite expérience de laboratoire qui consistait à remplir un récipient avec des balles un peu larges. Puis au bout d'un moment, les enfants qui étaient témoins de cette scène nous disaient « ce récipient, il est plein ». Une fois que ce récipient était plein, nous avions déversé une quantité à peu près équivalente de sable qui avait glissé entre les balles et avait rempli effectivement le récipient. Et les enfants nous disaient à nouveau « il est plein ». Et puis nous avions pris une bouteille d'eau que nous avons entièrement versée dans ce récipient et les enfants nous ont dit « il est plein, trois fois il est plein ». Est-ce que la première fois c'était un mensonge? Assurément non, mais voilà, nous avons du mal à comprendre comment nous sommes remplis, de quoi nous sommes remplis. Et voilà que dans de nombreux passages des Écritures bibliques, et notamment deux que nous avons lus, celui des Actes des Apôtres et celui d'Éphésiens, on nous dit que l'être humain doit être rempli du Saint-Esprit. En français, quand on dit « oh, il est complètement plein », en règle générale, Paul avait raison, on ne parle pas du Saint-Esprit. On parle plutôt des boissons alcoolisées. Et on a rarement dit, enfin, à ma connaissance, de quelqu'un qui était rempli du Saint-Esprit, il est plein. Peut-être justement parce que notre existence n'est pas un contenant comme les autres, ça n'est pas un contenant matériel. Vous savez qu'un contenant matériel, une fois qu'on l'a rempli, il est vraiment rempli. Après ma petite expérience, il aurait été difficile de rajouter des choses supplémentaires que les balles, le sable et l'eau. Parce que tout ce qui était possible d'y mettre avait été mis. Or, nos existences, et en particulier nos âmes et nos esprits, ne sont pas des contenants limités. Notre cœur est limité. Jean nous dit bien, l'amour de Dieu est plus grand que votre cœur. Oui, notre cœur ne peut pas contenir la totalité de l'amour que Dieu a donné à ce monde. Mais notre âme et notre esprit peuvent toujours contenir plus du Saint-Esprit. Alors, il est très important de nous rappeler cela parce que, bien souvent, nous sommes comme ces personnes, ces croyants qui étaient à Éphèse et que Paul a rencontrés. Et il prend juste le temps de vérifier un petit quelque chose, c'est est-ce que vous avez été remplis du Saint-Esprit? Ils sont croyants, ces personnes qui sont là. Personne ne va dire que ce sont des païens. Ce sont des gens qui sont issus du judaïsme, qui ont accueilli la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc ce sont vraiment des gens qu'aujourd'hui, dans nos catégories contemporaines, on qualifierait de chrétiens. Ce sont des bons chrétiens. Ils ont même invité l'apôtre Paul, prédicateur par excellence, dans leur assemblée pour qu'ils leur annoncent une bonne nouvelle. Et donc, ce sont plutôt des gens bien, des chrétiens avec un vrai C, pas un C tellement minuscule qu'on ne sait pas s'ils sont chrétiens. Ils ne sont pas juste christianisés, ils n'ont pas juste vaguement été dans un catéchisme entre 9 et 10 ans, et voilà. Ils sont chrétiens. Mais, à ceci près, qu'ils n'ont pas encore entendu dire que leur vie pouvait être pleine d'autre chose que de convictions, pleine d'autre chose que d'une belle philosophie, que d'un beau savoir-vivre, d'une espérance. Ils n'ont pas entendu dire jusqu'à présent, les chrétiens d'Éphèse, issus du judaïsme, qui donc connaissent encore mieux le Premier Testament que nous, ces chrétiens d'Éphèse n'ont pas entendu dire que l'on puisse avoir en soi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, bon, ok, il était là au commencement du monde, il soufflait sur les eaux, comme nous dit le livre de la Genèse. Le Saint-Esprit, oui, il a soufflé sur les prophètes. Oui, le Saint-Esprit, oui, il a soufflé sur la mer Rouge pour que l'eau se sépare en deux. Le Saint-Esprit, oui, le souffle de Dieu, il était là en Jésus, assurément, il l'a conduit au désert pour être tenté, etc. Oui, le Saint-Esprit, oui, mais le Saint-Esprit fait des choses un peu partout. Le Saint-Esprit est comme le vent, il souffle où il veut, mais à ce que je sache, même en ouvrant la bouche, le vent ne souffle pas en nous. Vous n'avez été jamais traversé par le Mistral, sauf si vous êtes vraiment poreux. Et à ce moment-là, vous êtes un peu trop poreux, je crois. Alors, ils ont un bon sens pratique, ils proclament que leur vie, en quelque sorte, est un tout qui est étanche, qui a sa cohérence, qui a son unité, qui a sa forme. Et ils n'ont pas besoin, comme cela, d'être envahis par quelque chose qui, manifestement, en plus, a fait faire des choses incroyables aux premiers disciples qui l'ont reçu. Ces textes ont quand même comme intérêt de nous montrer que beaucoup de chrétiens se privent d'une présence active du Saint-Esprit en eux. Beaucoup de chrétiens sont des gens infiniment fidèles, qu'assurément le Seigneur ne rejettera pas, mais pourtant, ils n'ont pas laissé ce souffle saint les envahir. Finalement, c'est comme si il manquait encore quelque chose. C'est comme si, quand on est en France, c'est comme un repas sans dessert, quoi. C'est comme un gâteau sans cerise sur le gâteau. C'est comme s'il manque quelque chose. C'est comme si, vous savez, cette histoire de ces personnes qui un jour se sont rassemblées avec des amis, ils sont partis à 6, ils ont été au restaurant, ils ont pris le menu, ils ont contemplé le menu, ils ont lu tous les plats formidables. Oh là là, terrine de sanglier, ça a l'air pas mal. Carpaccio de coquille Saint-Jacques, ça a l'air vraiment bien. Mousse de poireau, formidable. Puis ils ont lu tous les plats centraux, tous les fromages incroyables, les vins formidables, les desserts. Ils ont passé comme ça 20 minutes à contempler la carte, à la lire avec saveur, à avoir les papilles qui s'agitent, à avoir les glandes salivaires complètement mobilisées. Et puis une fois que tout ce parcours a été fait, ils referment le menu et ils sortent du restaurant. Quelle frustration, mais c'est terrible. C'est terrible parce que finalement, ils ont eu tout en prémisse, tous les avant-goûts, et puis, ils ne sont pas concrètement passés à table. Ils n'ont pas été savourés, mangés véritablement de ce qu'on leur proposait. Alors là, le Seigneur nous propose un mets délicieux, qui consiste à ce que, en nous, pas simplement dans notre estomac, mais dans la totalité de notre être, il puisse y avoir son souffle saint. Quelque chose de formidable, puisque c'est la présence de Dieu lui-même qui peut être en nous. Et nous, nous sommes des chrétiens qui lisons la Bible, qui lisons le menu. Nous voyons les apôtres. Oh, les apôtres, ils ont vraiment mangé beaucoup de Saint-Esprit, hein. Nous voyons les prophètes, ils parlaient de la part de Dieu. Oh, le Saint-Esprit les utilisait, mais pas simplement comme ça en les poussant par derrière. Saint-Esprit entrer en eux et parler à travers leur bouche. Mais c'est incroyable, c'est formidable. Et nous contemplons ces merveilles que le Seigneur a faites il y a 2000 ans et plus. Pire encore, si nous sommes réformés, nous sommes très malheureusement conditionnés par la parole de Calvin qui dit que le Saint-Esprit, vous savez, depuis que les Écritures ont été fixées, il se contente de nous aider à interpréter les Écritures. Bon. Seigneur, pardonne Calvin et nous te demandons pardon pour lui. Le Saint-Esprit continue à agir, il veut agir en nous, pas simplement pour nous aider à comprendre ce qu'on lit. Le Saint-Esprit aimerait bien que nous aussi nous puissions parler de la part de Dieu, comme le faisaient les premiers apôtres. Le Saint-Esprit voudrait bien que nous aussi nous puissions expliquer à des gens qui n'y comprennent rien aux merveilles de Dieu, l'expliquer dans leur langue, dans leur représentation, dans leur façon de voir, quelles sont ces merveilles incroyables que le Seigneur a faites pour nous. Mais nous, nous sommes au restaurant. Nous avons lu le menu, nous l'avons refermé et nous ressortons. Il manque fondamentalement quelque chose. Il manque fondamentalement quelque chose parce que le Seigneur garde toujours le meilleur pour la fin. En nous faisant lire le menu, c'était pour nous permettre de comprendre comment Dieu voulait fonctionner avec nous, comment Dieu voulait nous proposer, nous offrir ce Saint-Esprit comme quelque chose qui allait en quelque sorte couronner tout notre parcours terrestre de croyants, qui allait être telle la cerise sur le gâteau dont je parlais tout à l'heure, afin que nous puissions devenir pleinement et entièrement, non pas simplement des croyants, mais des fils et des filles du roi des rois, porteurs donc du même esprit que le Christ, pouvant faire les mêmes œuvres que le Christ lui-même et des choses plus grandes encore, a dit Jésus. Vous ferez des choses plus grandes encore que celles que j'ai faites. Incroyable, incroyable. Alors le Saint-Esprit nous est proposé et Luc dira, plutôt Jésus dira dans l'évangile de Luc pour être précis, si vous demandez, on vous donne. Effectivement, très souvent des gens disent « Oh, moi je ne reçois pas beaucoup du Seigneur. » Seigneur, vraiment, il est économe avec moi. Mais est-ce que vous lui avez demandé ? Ah ben non, je ne veux pas le déranger. Je ne veux pas le déranger. Pourtant, pour pouvoir recevoir, il faut demander. Pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit, les apôtres, enfin ceux qui sont devenus des apôtres dans un deuxième temps et qui étaient à Éphèse, ont eu besoin de demander qu'effectivement ce Saint-Esprit dont on les informait qu'il pouvait être présent en eux, mais ils voulaient bien. Oui, nous voulons bien recevoir cette prière, nous voulons bien accueillir ce souffle qui va révolutionner notre vie. Nous le voulons, nous sommes prêts, nous le désirons. Demandez et l'on vous donnera. Parce que le Père des bénédictions ne donne pas des malédictions à ceux qui lui demandent des bénédictions. Il ne nous donne pas des problèmes, des embrouilles, les sacs de nœuds, quand nous lui avons demandé des bénédictions. Il nous donne des tas d'occasions d'être victorieux sur les problèmes, les embrouilles, les sacs de nœuds. On en a plein, mais on est victorieux par son esprit. Alors, je pense que les uns et les autres, nous avons bien entendu tous des parcours très différents, nous sommes avec des profils très très hétérogènes. Certains ont déjà tout à fait demandé au Saint-Esprit qu'il soit entièrement présent dans leur vie et ils se réjouissent de cette présence-là. D'autres ne l'ont sûrement pas fait. Je crois que dans un jour comme celui-ci, quelques semaines après Pentecôte, le Seigneur veut nous rappeler, notamment comme il le faisait par la bouche de l'apôtre Paul quand il a parlé à ceux d'Éphèse, est-ce que tu as pris le temps de demander au Seigneur qu'il te donne son Saint-Esprit. Est-ce que tu as pris le temps d'accepter qu'il puisse y avoir un souffle particulier qui vienne changer quelque peu l'ordre en place dans ce petit espace qu'on appelle ton existence, délimité physiquement par ton corps ? Est-ce que Tu as simplement, au moins une fois, pris le temps de dire, mais Saint-Esprit, oui, viens. Je veux bien que tu habites en moi. Je veux bien que tu viennes réguler les choses de mon existence. Je ne veux pas simplement que ce soit mon intelligence qui vienne mobiliser des versets bibliques, des convictions. Que ce soit pas simplement avec ma volonté, avec mon courage, etc., que ma vie chrétienne